Alors, bonjour à chacune et à chacun. Merci pour l'accueil, Jean-Marc. Merci pour aussi votre accueil ce matin. C'est vrai que ce n'était pas prévu que je sois là, mais merci de m'accueillir. Donc, vous allez écouter ce que je vais dire. Vous êtes obligés, parce qu'il n'y a pas d'autres prédicateurs, n'est-ce pas? Très bien. On va prendre quelques textes, quelques versets qui se trouvent dans l'épître de Jacques. La lettre de Jacques est une épître un peu particulière parce qu'elle est vraiment différente de celle de l'apôtre Paul, de Pierre aussi, et des Hébreux. Et parce qu'elle a un caractère qui est très tranchant comme ça. Et Jacques voilà, se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu pour parler à ses frères et sœurs juifs qui sont venus à Jésus-Christ. Le temps de retrouver mes notes et je suis à vous. Ah voilà, c'était plus loin, c'est pour ça. Voilà, mon thème ce matin, c'est la force dans l'épreuve. Au vu de ce que la paroisse traverse, de ce que les uns et les autres, aussi à titre personnel, pouvaient vivre, eh bien donc je vais parler de la force de l'épreuve, ce que la parole de Dieu a à nous dire quand on vit des temps d'épreuve, quand on vit des temps où notre foi est éprouvée, quand on vit des temps de tentation, puisque les mots tentation et épreuve sont synonymes dans les Écritures. Donc retenez ça ce matin. La tentation. Juste avant de commencer et donner la parole à Samuel qui fera la lecture, en fait, on se rappelle qu'on est dans cette période de Pentecôte. Alors, c'était le week-end passé, la Pentecôte, et qu'au niveau de l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'est d'abord le don, la fête, une fête biblique, et c'est le don, la fête du don de la loi. Au mont Sinaï, Moïse reçoit les pierres avec ses 10 commandements, et donc Dieu ordonne au peuple juif, à Israël, de célébrer son nom grâce, parce qu'il a reçu la loi et les commandements, et que c'est unique, et qu'aucun autre peuple ne peut recevoir les Écritures. C'est très particulier dans les Écritures, très marqué, qu'en fait c'est un don qui est unique, qui est extraordinaire. Dieu donne ses 10 commandements, qui viennent de son cœur, et en même temps qui sont un peu des garde-fous quand même pour l'humanité et nos vies, qui avons tendance à aller un peu dans tous les sens, sans lui. Donc merci à Dieu pour ses commandements. Et c'est aussi, bien sûr, la fête pour les chrétiens que nous sommes, du don du Saint-Esprit, donc don de la loi d'un côté, et aussi les moissons, les semailles, et en même temps le don du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui m'a frappé cette semaine, c'est qu'en revoyant ces textes de Exode chapitre 32, Exode 20, donc c'est Dieu qui donne la première fois les 10 commandements, et puis Exode 32, c'est la description un peu de tout ce qui était autour de ce don de la loi. Eh bien, j'étais frappé de voir qu'il y a 3000 personnes qui sont décédées au moment du don de la loi en Sinaï. 3000 personnes sont mortes par désobéissance, par rébellion ouverte et franche. Mais par contre, à la Pentecôte, vous vous rappelez combien se sont convertis, se sont fait baptiser ? Aussi 3000. Donc voilà, il y a comme un rachat qui se fait. Il y a une œuvre qui est là, et si Israël a péché à ce moment-là, eh bien ceux qui se sont convertis de tout leur cœur à la Pentecôte, la première Pentecôte chrétienne, voilà, il y a un rachat, une rédemption qui est possible. Alors gloire à son nom, tout est possible, il y a un nouveau départ, il y a des œuvres nouvelles qui sont là. C'est aussi le don du Saint-Esprit, ce qu'il veut signifier. La boucle est bouclée, bref. Alors Jacques 1, verset 13 à 15, merci Samuel de lire. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15.
Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort.
Merci. Et puis après, il y aura un deuxième texte. Donc, mon thème, c'est la force dans l'épreuve ou dans la tentation. Jacques ici décrit clairement que tout chrétien peut être mis à l'épreuve et que comme la tendance naturelle l'est, on a facilement tendance à accuser l'autre. Hein, je ne sais pas si ce matin vous avez accusé quelqu'un, qu'il y a un truc qui allait de travers, mais il y a une tendance naturelle et ça c'est pas bon, c'est ce que Jacques nous dit ce matin. La mise à l'épreuve, la tentation, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Donc il y a une faiblesse en nous, une fragilité, je ne sais pas comment décrire ça exactement, mais qui fait que quand il y a une tentation qui est là, eh bien, on peut être soumis à cette tentation. Et cette tentation qui est là, eh bien, on est appelé à y résister. C'est ce que Jacques aussi nous montre. Là, parce que sinon, elle peut entraîner la tentation, une convoitise. Et si cette convoitise, elle est accueillie, eh bien, elle peut concevoir le péché, vraiment la désobéissance contre Dieu et la déception pour nos vies. Et puis ce péché, eh bien, comme vous le savez, il entraîne la mort. Tout salaire du péché entraîne la mort, une mort. Voilà, tous les exemples de péché dans ce monde qui sont là et qu'on peut pratiquer peut entraîner une coupure, une mort, le fait de se séparer de Dieu, se séparer de personnes aussi, de nous-mêmes aussi, parce que là, on est en conflit avec soi-même. Voilà, donc ce premier texte nous parle du fait que Dieu ne tente personne. On est d'accord avec ça. Dieu n'éprouve personne, ne tente pas par rapport au péché, personne. Par contre, c'est notre faiblesse, notre convoitise qui peut nous entraîner vers le péché. Je pense bien sûr à Joseph, qui est tenté par la belle femme, j'imagine qu'elle était splendide, qu'elle était belle, femme de Potiphar, son maître, mais il a en lui une conviction, une certitude à laquelle il s'accroche, des valeurs auxquelles il dit « je ne lâcherai pas », cela, il refuse la tentation, pourtant il aurait pu facilement coucher avec cette femme, mais il a dit non, il a résisté, alors il a payé le prix fort avec ça, mais n'empêche qu'il a gardé sa conscience et son âme. Voilà, que personne dise « c'est Dieu qui me tente ». Alors dans l'épreuve, on va mettre de côté, dans la tentation par rapport au péché, on met de côté que c'est Dieu qui nous tente, d'accord ? Mais par contre, il y a un adversaire qui peut nous tenter, ça c'est clair. Et on a l'impression des fois qu'il ne se prive pas de le faire. Deuxième texte, toujours dans Jacques, c'est chapitre 1er, et on remonte un peu, c'est versets 2 à 5. Merci Samuel.
Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches.
Amen. Là, on a un autre texte, d'autres passages qui parlent aussi de l'épreuve. Et cette épreuve, elle n'est pas par rapport à la tentation qui entraînerait le péché, vous avez vu, mais c'est l'épreuve qu'on appelle l'épreuve de la foi. Et l'épreuve de la foi, curieusement, il nous est écrit et demandé ici de se réjouir. Waouh, quelle opposition, hein ? Vous avez des épreuves, on va se réjouir. Mais comment, c'est incroyable ça, la vie chrétienne. Quel contraste qui est là. Mais Dieu nous appelle à nous réjouir dans ces épreuves. Pourquoi ? Parce que les épreuves, si je comprends bien le texte ici, c'est l'épreuve de notre foi, et notre foi va en sortir grandie. Notre caractère aussi, puisqu'il est parlé de patience, ou alors c'était marqué dans ta version, Samuel, c'était résistant, hein ? D'être capable de résister. En fait, dans l'épreuve que nous traversons, Dieu est là présent à nos côtés, il est notre soutien et il veut nous apprendre à être résistants, à persévérer et à tenir le coup, à garder le cap, à pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas ? J'étais pas sur le bateau hier, mais ceux qui étaient sur le lac là au bon moment, je sais pas comment ils ont réagi, mais il fallait tenir bon, j'imagine. Je sais pas, il fallait mesure d'urgence, mais ils ont tenu bon pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Et quand il y a épreuve, eh bien notre regard doit se fixer sur la personne de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, et vraiment je vous encourage à lire et relire ce passage, où il nous est dit de garder les yeux, les regards fixés sur Jésus-Christ et sur sa personne. Non pas sur ce qui nous arrive, non pas sur la hauteur des vagues ou les creux, mais vraiment sur la personne de Jésus-Christ. Seigneur, il y a peut-être une épreuve aujourd'hui, cette semaine ou dans ces temps à venir. Quelle qu'en soit la longueur, aide-moi à fixer les regards sur toi. Et Jésus lui-même a persévéré jusqu'au bout. Il a appris, il a été tenté. Hein, la Bible nous parle même qu'il a subi toutes les tentations. Ça, c'est aucune personne humaine ne peut dire cela. Mais Jésus a subi toute épreuve et toute tentation sans faillir. sans faillir. Il fallait qu'il ne faillisse pas. Et donc auprès de lui, il y a une force, il y a une grâce, et il y a une patience, une résistance qu'on peut trouver. Et il y a aussi autre chose dans ce texte en fait, qui est sous-entendu, parce que toute cette lettre de Jacques s'adresse à une église et à une communauté, et j'ai envie de dire une communauté locale, c'est que dans l'épreuve, la meilleure, un des outils ou une grâce qui peut nous être faite, c'est de tenir bon ensemble. Ensemble. Et si quelqu'un est tenté, on peut s'envoyer des messages, des WhatsApp d'urgence, là, et dire, voilà, Seigneur, mais aussi à des frères et des sœurs, on peut compter sur le soutien des uns et des autres. Aujourd'hui, avec Internet, avec tous ces réseaux sociaux, c'est précieux. C'est précieux. Donc, dans ce texte de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 5, nous avons l'importance de nous réjouir. Et tout à l'heure, on s'est vraiment réjoui. Moi, j'ai trouvé dans la louange, merci à l'équipe de nous avoir conduits dans ce sens-là, de regarder au Seigneur et de pouvoir se réjouir dans sa présence. Ça ne veut pas dire qu'on va danser de joie. On peut, bien sûr. Mais dans l'épreuve, on sait qu'il est là et sa joie ne faillira pas. Sa présence ne faillira pas. Elle produit la patience. Et puis, on est encouragé dans ce texte aussi à demander la sagesse de Dieu. À ne pas compter sur nos propres forces. Ne compte pas dans l'épreuve sur ta propre force, mais demande sagesse à Dieu, la sagesse divine. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé dans les épreuves. Moi, ça m'est arrivé même plusieurs fois. Demandant à Dieu la sagesse, vous voyez, je m'attendais à recevoir une pensée, une présence de Dieu qui m'envahirait, qui me saisirait, et ce serait génial comme ça. En fait, la sagesse, elle est venue au travers des autres. Et même parfois des personnes qui ne sont pas dans le royaume de Dieu encore, déjà, qui sont peut-être même loin des choses de Dieu. Tout d'un coup, il y a une pensée, une parole qui est là au boulot ou ailleurs, quelqu'un qui vous dit une chose, et puis ça reste, ça vous fait peut-être réfléchir. Et voilà, je crois que Dieu utilise ces moyens-là, c'est sa sagesse. Donc nous avons besoin de sagesse divine dans l'épreuve, nous avons besoin de son secours. Alors je vous encourage dans cette épreuve, on est avec vous, je parle là au nom du collège ministériel, on a parlé de votre situation, priez, bien sûr, pour Yann, pour Sarah, pour la famille et pour la paroisse de Versoix. Et on se tient à disposition, voilà, c'est mon engagement de ce matin, mais peut-être aussi après, d'être à vos côtés dans cette situation. Gardez le cap, on vous encourage. La pastorale, qui s'appelle collège ministériel maintenant, la pastorale est à vos côtés, bien sûr, et avec le Seigneur. Mais demandez à Dieu la sagesse, cette sagesse d'en haut. Hein, pas la sagesse humaine, mais la sagesse d'en haut, celle qui est inaltérable, celle qui va vous dire, dans cette épreuve-là, Dieu nous a donné ceci ou cela. Il y a une grâce particulière dans les situations. Amen. Allez, on va dire qu'on est pentecôtiste. Alléluia, amen ce matin. Parce qu'il est présent, il est là à nos côtés. Quelle grâce, hein? Quelle immédiateté de sa grâce et de sa présence. Dans les épreuves, alors plusieurs dans les Écritures, on va regarder quelques passages. Plusieurs dans les Écritures sont passés bien sûr par des épreuves de foi, et plusieurs ont été tentés d'aller dans une direction qui n'était pas bonne. Et je pense tout d'abord justement à la Pentecôte, au peuple de Dieu choisi par Dieu, qui il faut le dire, font preuve parfois d'une inconstance humaine et extraordinaire. Puisque ce peuple a peur de Dieu, et au moment de la Pentecôte, donc du don de la loi, ils sont éprouvés, et la tendance, et ce qu'ils ont fait aussi, c'est d'aller vers de tomber dans l'idolâtrie, qui nous montre qu'il n'y avait pas une connaissance très très profonde de Dieu. Alors ce n'est pas un jugement de ce que je dis, mais ils sont tombés dans l'idolâtrie, puisque après le don de la loi, au même moment, eh bien, le peuple d'Israël se fait un veau d'or. Et se fabrique une idole qu'on peut voir, qu'on peut toucher, tandis que le Dieu de Moïse, on ne sait pas où il est. Moïse, il a filé, il a fui, mais on a besoin d'un Dieu, on a besoin. Et il tombe donc dans l'idolatrie. Et le texte, ceux qui me prennent des notes, se trouve dans Exode 32, j'en parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi un texte qui nous rappelle cet épisode, c'est 1 Corinthiens 17. Et on va le voir ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 7. Et c'est une exhortation aussi. Verset 6 déjà. Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Donc eux, le peuple d'Israël, qui était dans le désert. « Ne nous livrons pas non plus... » Verset 7. « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, mais ils se levèrent pour s'amuser. » Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Le peuple s'est livré, en fait, et ils avaient envie de faire la fête, de s'amuser et de boire. Dieu n'est pas contre la fête, il a instauré les fêtes. Et quand vous allez en Israël, il y en a plus que partout d'ailleurs, des jours de congé, de fêtes, c'est extraordinaire. Mais voilà, se lever pour boire. Et en fait, l'idée, le texte qui était là et les textes bibliques nous montrent que la chute de ce peuple d'Israël, c'était vraiment une idolâtrie. Donc c'était pas seulement on va boire un coup, c'est l'heure de l'apéro, mais c'était vraiment l'idolâtrie comme les autres nations pouvaient le faire. Et ça, Dieu n'accepte pas ces choses-là. Dieu est un Dieu de joie, de fête, mais c'était faire comme les autres nations et Dieu le reproche plusieurs fois dans les Écritures. Quand l'épreuve est là, quelle est notre faiblesse? Quelle est notre tentation? Nous sommes faits pour adorer. En effet, l'être humain, on est fait pour adorer. Et si notre cœur, il n'est pas rempli de l'amour de Dieu, on va immanquablement aller vers une idolâtrie quelconque. Et qui parfois peut être subtile. Ça peut être nous-mêmes, l'idole, ça peut être une pratique sportive à outrance, ça peut être, je sais pas, une manière de penser. Idole, idée, c'est la même chose, c'est la même racine. Donc on est encouragé à ne pas être idolâtre. Ces choses nous servent d'exemple. Alors dans l'épreuve qui est là, à titre personnel ou communautaire, eh bien, et on est encouragé à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Du reste, c'est dit, le dernier verset de l'épître de Jean, la première, c'est dit de se garder des idoles. Et il parle à des croyants, des chrétiens. On doit se garder. On doit se garder. Pourquoi sont-ils revenus en arrière tant de fois, le peuple hébreu? Puisque le texte nous dit ici, ça nous sert d'exemple. Pourquoi parfois certains croyants disent « Ah ben j'en ai marre de ces évangéliques » alors qu'ils l'étaient à fond, et puis vont, là c'est un mystère, hein, retournent dans une communauté qui apparemment n'est pas très vivante, communauté historique. Pourquoi? Ça arrive. Je pense qu'il y a un aspect de retour en arrière, il y a un aspect qui est sécurisant. Alors que Dieu nous appelle dans l'épreuve à nous approcher de lui, à ne pas retourner dans quelque chose qui nous sécurise, si vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi revenir à quelque chose de sécurisant? Parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose de visible. Alors que Dieu nous appelle à marcher, on l'a entendu ce matin, par la foi. En regardant à lui, à lui faire confiance. N'est-ce pas? Donc dans l'épreuve, ne marchons non pas par la vue, mais par la foi. Grandissons dans la foi. Et la foi, eh bien, c'est une projection. C'est déjà un état maintenant, mais c'est aussi une projection. Et c'est quelque chose de visible. C'est tous ces mouvements qui proviennent d'Asie, de méditation, etc. Eh bien, ils ont rien inventé. Dieu a mis dans le cœur du croyant la foi de voir les choses à l'avance. Et je vous encourage dans toute épreuve à voir les choses à l'avance, à se projeter. Les sportifs le savent bien. Il faut se fixer des objectifs. Et tant que l'objectif n'est pas atteint, eh ben, on donne tous ses efforts, et spécialement dans les temps d'épreuve, dans les temps quand ça va pas, quand le moral n'est pas bon, quand il y a un échec, etc. Bref, ben, on garde l'objectif, et on s'encourage à cela. Donc n'allons pas à droite et à gauche, n'allons pas ce qui a fait notre perte, n'allons pas, ça c'est l'image de l'apôtre Pierre, au vomi que nous avons lâché au péché qui était le nôtre avant, mais attachons-nous fortement par la foi à la parole de Dieu. Et ça, c'est la première épreuve. 2 Corinthiens 5, 7, donc, il nous dit de marcher par la foi et non par les sens ou par la vue. Chacun a une mesure de foi. Encourageons-nous à garder le cap, même si l'épreuve est là. Deuxième tentation, deuxième épreuve. Donc, la première, c'était l'idolâtrie. Tentation d'aller vers ce qui est idolâtre. La deuxième, eh bien, dans l'épreuve ou la tentation, c'est d'écouter la petite voix qui n'est pas la bonne. Ou alors, carrément, d'écouter l'adversaire, le diable, qui parle. Genèse chapitre 3, verset 1, vous le savez, ça commence par une tentation. Et l'adversaire de nos âmes, le tentateur, dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, dans l'épreuve, eh bien oui, on va dire « Dieu a dit oui ». Et c'est du reste ce que Jésus fait dans Matthieu chapitre 4, par exemple, lorsque lui-même est éprouvé, tenté par directement l'adversaire, où le diable cite la parole de Dieu, où lui met devant les yeux non seulement le gâteau, la crème, la cerise, et même la pâtissière, je ne sais pas. Il le tente avec tout ce qui peut être tenté, et Jésus dit simplement « Il est écrit ». Il s'accroche à l'Écriture et à la parole de Dieu. Jésus est notre modèle, notre maître, et il nous défie ce matin dans l'épreuve. N'écoutons pas la voix de l'adversaire. Ou alors, faisons la terre par ce qui est écrit. Si parmi nous, il y a des jeunes croyants ou des personnes qui ne sont pas encore assez affermies dans les Écritures, lisez, méditez les Écritures et approchez-vous de ceux qui connaissent bien la parole de Dieu. Ça sera une source de bénédiction. Jésus est tenté dans son identité. Il est tenté par rapport à la gloire que veut lui offrir le diable. Il est tenté par rapport à l'orgueil. Plusieurs fois, si tu es fils de Dieu, hein, si tu es croyant, si tu es chrétien, pourquoi tu as ces épreuves? Tu vois, tu as redoublé de prières et tu en as le double d'épreuves. Hein, ça arrive parfois. Alors Jésus va répondre avec assurance et confiance. Bien sûr, il a faim. Bien sûr, il est humain. Bien sûr, il est dans sa faiblesse. Mais il répond par les Écritures. Et heureux les hommes et les femmes et les jeunes gens qui savent s'appuyer sur les Écritures. Alors moi, ce que je fais parfois, même j'essaie de faire ça tous les jours, mais j'arrive pas toujours, mais c'est de m'approprier les Écritures en les citant à haute voix, en le disant. J'essaie sous mon casque, en scooter, quasi tous les jours, de réciter, mais plus que ça, plus de réciter, de proclamer le psaume 23. Quelqu'un a dit, le psaume 23, c'est en général le psaume par cœur, le premier qu'on apprend, et c'est le dernier qu'on va réciter. Et c'est vrai. Hein, plusieurs fois, quand je fais des visites à l'hôpital ou à Collonges, on va lire le psaume 23. Et même sous terre, à la cérémonie, le psaume 23 est souvent cité. C'est le plus beau des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de force dans cette épreuve. Je ne manquerai pas d'énergie pour aller à mon travail, même si c'est pas simple. Je ne manquerai pas d'amour pour aimer ce que je dois aimer. Alors soyons attentifs. Les Écritures, il nous est dit dans Éphésiens 5, 6, c'est en même temps l'épée de l'Esprit, le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, puis c'est aussi à quelque part le bouclier de la foi, ça c'est mon interprétation, un bouclier contre les assauts de l'adversaire. Il est écrit, oui, mais il est écrit aussi. Et on se ramène à l'essentiel. Du reste, Jésus cite là un commandement. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc on est appelé dans l'épreuve à s'appuyer sur ces Écritures. Pourquoi les Écritures? Parce qu'il y a dans cette parole, et je le rappelle ce matin, une puissance de vie qui est là. Chaque parole qui est écrite, chaque promesse qui est inscrite, elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est personnalisable ou personnalisée au temps que nous vivons. Ça, c'est extraordinaire, hein. Alors on ne va pas se priver des Écritures. On ne va pas se priver des Écritures. À la fête de la Pentecôte juive, les Juifs religieux, croyants, ont la tradition, je ne sais pas si vous le savez, mais avant de faire la fête, le jour J, toute la nuit, ils passent à lire les Écritures. Je ne sais pas s'il y a des Juifs parmi nous, pratiquants, mais en tout cas, il y a cette pratique qui est là. Et donc, on comprend pourquoi, le jour de la Pentecôte chrétienne, on va dire comme ça, quand le Saint-Esprit descend, est cité plein de versets de la Bible par Pierre et les apôtres. Il cite Joël, il cite tout ce qui se passe, ça colle au timing de Dieu. Ils sont proches des Écritures. Ils ont lu toute la nuit les Écritures, c'est trop bien ça, c'est extraordinaire. Hein, il y avait quelque temps en arrière, il y a 10 ans, on a essayé de faire lire toute la Bible dans les rues de Genève. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était pas simple, mais il y a une bonne partie des Écritures qui ont été lues. Évidemment, ça plaisait pas à certains. Mais ça a plu aux enfants de Dieu. Et on a fait avec confiance. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle nous met debout. Éternel, tu m'as fortifié. Et dans le psaume que j'avais moi aujourd'hui dans ma méditation, le psaume 148, j'ai lu ceci, et ça correspond bien avec ce que tu disais, Jean-Marc, aussi. Psaume 148, verset 13... Verset 14, pardon. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles. Dieu relève la force de son peuple. C'est génial ça dans l'épreuve. Dieu relève la force de son peuple pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Il relève la force de son peuple. Parcourons, regardons un petit peu en arrière, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont traversé les épreuves, regardons comment Dieu a pu agir et regardons à ce qu'il va faire. Regardons, je ne sais pas, moi, dans on va dire ça comme ça, dans 6 mois, allez, au mois de décembre 2019, vous aurez passé cette épreuve. Elle sera derrière. Prenez le verset là du psaume. Il a relevé la force de son peuple. C'était pas simple, mais Dieu est là dans l'épreuve. Puis le troisième point, donc le premier point, c'était la tentation d'aller dans l'idolâtrie. Et là, on va s'en garder. Le deuxième point, c'était de ne pas écouter ce que l'adversaire pourrait nous dire. Et le troisième point, la tentation de tout lâcher. La tentation de tout lâcher. Plusieurs sont passés par là. Et je pense à Pierre, l'apôtre, qui lorsque la servante lui dit « Mais toi aussi t'es disciple, je te reconnais. » « Ben non, j'en fais pas partie, c'est pas vrai. » Il était averti pourtant. Il était averti. On a l'explication de cette épreuve. Pourquoi ? Parce que Jésus le donne dans Luc chapitre 22, verset 32, et on va regarder ça. Pierre est éprouvé dans son engagement avec Jésus, dans son amour pour lui aussi, et la tentation, elle nous éprouve dans l'amour pour lui. Luc 22, verset 32, juste avant, verset 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié. Il prie et il nous invite dans sa prière à le rejoindre, simplement. Pierre est éprouvé juste avant la croix. La tension était extrême. Pierre encore est éprouvé avec ses autres camarades, disciples, lorsqu'ils sont dans le jardin, puisque Jésus leur reproche, mais écoutez, il faut prier là, j'ai besoin de vous. Il a pas tenu le coup dans l'épreuve, mais après, Pierre est revenu. Alors la tentation de tout lâcher, elle peut être là aujourd'hui, en disant j'en ai marre, je lâche tout, c'est trop dur, ou je perds pied, ou je vais faire un break pendant un temps. Les amis, n'écoutez pas ce sentiment-là. Il est humain, c'est sûr, mais ne l'écoutez pas. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Il a quantité de promesses dans l'épreuve. L'épreuve est là pour affermir notre foi. L'épreuve est là. Ne lâchons pas. Encourageons-nous les uns les autres. Et vous venez à la réunion de prière. C'est quand la réunion de prière ? Mercredi. Vous êtes là mercredi, hein ? Je viens contrôler. Non. Chiche. Ah, mais j'ai un truc. Non. Non, c'est pas à moi de le faire. Je m'en garderai bien. Mercredi, hein, à part ici, un empêchement particulier. Soyez là, fortifiez-vous dans le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 13, une promesse qui nous montre que Dieu est spécifiquement avec nous dans la tentation. Dans la tentation, il donne le moyen d'en sortir. Seigneur, quel est le moyen de sortir de cette situation ? Voilà, à titre personnel, mais aussi ensemble. Dieu est avec vous. 2 Corinthiens 4, 17, on est encouragé à protéger nos yeux et nos sens dans l'épreuve. Une des épreuves que j'ai eues dans ma vie, je pense les plus dures, eh bien, c'était quand une des personnes de ma famille est décédée par suicide. Alors là, vous avez toutes les questions qui vous traversent l'esprit, toute la vague, la panoplie des sentiments, des émotions humaines. Mon beau-frère est décédé, je ne sais pas quel âge il avait 30 et quelques années. Bref, Et dans ces moments-là, vous avez l'impression de... Ouais, le sol se dérobe. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pas vrai. Hein ? Il y a toutes les phases, là, la psychologie nous l'apprend, du déni d'abord, c'est pas vrai. Après, vous êtes, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? Après, vous avez, Dieu, pourquoi tu n'as rien fait ? Voilà, les questions humaines qui peuvent être là. Il y a, je dirais, la chose qui m'a soutenu le plus, je peux le dire comme un témoignage personnel, c'était que dans les temps de prière, alors je voulais prier, Ça, c'est sûr. Je voulais m'appuyer sur Dieu, mais dans les temps de prière, c'était les temps de prière en langue que je pouvais avoir. Incapable de prier autre chose que en langue, les langues du ciel qui m'étaient données à ce moment-là. Et ça, ça me fortifiait. Ça me fortifiait. Le reste, voilà. Et puis vous avez dans cette force le Saint-Esprit qui est, je pense, on peut dire comme ça, une onction particulière, une onction qui est pour l'épreuve. J'ai l'impression que dans l'épreuve il y a quelque chose de, voilà, pour ce moment-là, en tout cas ça, je le vivais. Alors que Dieu vous encourage à prier dans l'Esprit et n'oubliez pas cela aussi. Est-ce que tu as une pensée, Samuel, qui est là? Non. J'aimerais terminer par la prière, et peut-être certains ont besoin, à titre personnel, prier d'abord pour la paroisse entière, mais aussi prier pour ceux qui auraient un besoin particulier, personnel. Tournez-vous vers le Seigneur, attendez-vous à lui, et j'aimerais vous proposer, on a encore quelques minutes, Jean-Marc, pour le faire, ça joue bien? Je fais vite. C'est bon, merci. J'aimerais vous proposer, pour ceux qui ont un besoin de prière personnelle, bah, de pouvoir vous avancer, et je veux prier avec vous. Et avant cela, je vais demander ensemble sa grâce particulière pour ce moment-là. Seigneur, on est encouragé dans ce texte de l'Épître de Jacques à te demander la sagesse. Seigneur, pas un secours qui serait une canne ou un roseau brisé, comme dit le prophète Ésaïe, qui perce la main, mais un vrai secours, une vraie sagesse qui vient de toi. Pour mes frères et sœurs bien-aimés, Seigneur, et si ce message est enregistré, pour ceux qui l'écoutent aussi, je te prie, Seigneur, qu'il y ait une sagesse qui vienne d'en haut. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce, qu'il y ait le secours, la main secourable de l'Éternel, et que tu leur donnes exactement ta pensée. Et Seigneur, comme le prophète Jérémie disait, lorsque ta pensée et ta parole lui est adressée, il est comme saisi. Il est comme imbibé dans son être intérieur. Il est comme ficelé par cette parole que tu lui donnes. Bien, donne à mes frères et sœurs, ceux qui sont engagés dans un service pour la paroisse, ceux qui sont les responsables en premier, cette grâce particulière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Et je te demande que tout dans cette période-là puisse les attirer à toi ensemble. Bénis leur temps communautaire en leur donnant, oui, la joie dont parle aussi Jacques, cette joie surnaturelle au nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur.